scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 96, pour le samedi 26 mars 2011, contre l'approche réductionniste du phénomène OVNI. Bonjour et bienvenue sur Scepticisme scientifique, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, nous allons donc discuter quelque peu de Pierre Lagrange, qui est un sociologue, et qui est le sociologue mais qui est le plus sollicité par les médias pour discuter du phénomène OVNI. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce qu'il a récemment démarré un blog intitulé Pulp Science, carnet de recherche visuelle par Pierre Lagrange. Donc Pierre Lagrange, au début de sa carrière, il a travaillé sur... son premier ouvrage était sur l'affaire Roswell. Et dans son livre sur l'affaire Roswell, il était relativement, je ne peux pas dire sceptique, mais en tout cas, il considérait que l'explication extraterrestre n'était pas démontrée pour ce cas. Bon, simplement, vers la fin de l'ouvrage, il y avait quelques pages qui indiquaient déjà qu'il s'orientait dans une optique quelque peu relativiste et qui était de mauvais augure, mais enfin, bon, ça c'est... L'histoire nous a démontré que c'était malheureusement bien le cas. Et donc, il prône sur son blog et dans ses écrits une approche qu'il désigne comme une approche irréductionniste du phénomène OVNI. L'article principal qui va nous intéresser ici, il l'a publié en 2000, dans la revue Infor-Espace, qui était la publication de la défunte organisation ufologique belge SOBEPS, donc pour la Société Belge d'Études des Phénomènes Spatiaux, qui, malgré le nom qui sonne évidemment très sérieux, n'est qu'une énième organisation ufologique qui, franchement pro-extraterrestre, même s'il s'en cache évidemment. On en a parlé dans l'émission consacrée à la vague belge. Donc c'est dans cette publication qu'il a publié un article intitulé « Reprendre à zéro pour une sociologie irréductionniste des ovnis ». Pour comprendre en quoi ça consiste, il faut d'abord définir ce que serait une approche réductionniste. Pour le dire simplement, l'approche que je développe avec mes invités sur ce balado, c'est une approche réductionniste. En effet, l'approche sceptique est réductionniste dans le sens où elle tente de réduire les observations d'ovnis à du connu. Pour ma part, je préfère dire plus simplement en fait que l'approche sceptique consiste à expliquer les observations d'OVNI plutôt qu'à entretenir le mystère. A l'inverse, donc, une approche réductionniste, telle que celle prônée par Lagrange à travers toute son œuvre, consiste à ne pas tenter pour la sociologie de réduire les observations d'OVNI à du prosaïque, mais au contraire à laisser la porte grande ouverte aux explications extraordinaires. Donc, pour vous donner un exemple, au début de son article, il nous dit la chose suivante. Il dit, je cite Pierre Lagrange, les sciences sociales ne peuvent-elles étudier les ovnis qu'après les avoir rangés au rang d'illusions, d'erreurs de perception? C'est ce qu'ont cru certains ufologues à partir de la fin des années 70. Je voudrais montrer dans cet article qu'ils ont eu tort et que la sociologie des ovnis peut très bien se faire sans réduire l'ovni à un pur phénomène sociopsychologique. La sociologie des soucoupes doit passer du réductionnisme à l'irréductionnisme, faute de quoi cette sociologie demeure une controverse ufologique, rien de plus. Après la publication de cet article, Claude Mauger, qui était un sceptique, a publié une réponse dans la même revue qui était... Donc cet article était intitulé « Science et sociologie des sciences » ou « Parti pris », donc qui a été publié dans Infor-Espace numéro 103, décembre 2001, dans lequel il argumentait grosso modo que derrière une façade d'observation participante, en réalité, Pierre Lagrange défendait l'ufologie hypothèse extraterrestre. Et je dois avouer que pendant très longtemps, en fait jusqu'à l'ouverture de son blog, je pensais honnêtement que Pierre Lagrange était un tenant de l'hypothèse extraterrestre, mais qu'il ne le disait pas clairement pour privilégier sa carrière académique. Donc en gros, dans le fond, il pense que le phénomène OVNI serait largement d'origine extraordinaire, donc paranormal ou extraterrestre, un peu dans la lignée de Bertrand Meheux. Je pense qu'au début de sa carrière, il se situait un peu dans la lignée d'un Bertrand Meheux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre au second degré, c'est-à-dire qu'il pense que le phénomène OVNI s'explique par un savant mélange d'extraterrestre et de paranormal. Mais donc, quand il a ouvert son blog, j'ai décidé de lui poser la question et de la manière la plus claire possible, donc dans un certain nombre de commentaires. Ma question était, pensez-vous, oui ou non, qu'il y ait de l'extraterrestre et ou du paranormal à l'origine de certaines observations d'OVNI? Donc ma réponse était formulée en oui ou non. Donc, et mon idée, c'est que évidemment, il peut, s'il était un tenant de l'hypothèse extraterrestre, il pourrait essayer de se... Enfin, quoi qu'il en soit, on pourrait dire d'un point de vue méthodologique, je refuse de prendre position dans le débat, je me mets au-dessus de la mêlée, j'observe de manière neutre. Évidemment, ça, c'est une optique méthodologique. Ça ne veut pas dire que l'individu, en tant qu'individu, n'a pas d'opinion, n'est-ce pas? Mettons que je dis, je veux étudier les religions, je ne suis pas d'accord avec cette approche méthodologique. Je crois qu'il faut clairement prendre position et assumer ses propres convictions et même les expliciter dans ses écrits. Même on peut imaginer quelqu'un qui tiendrait le discours « Je vais étudier les différentes religions et croyances, mais moi, je suis au-dessus de la mêlée, donc je préfère pas énoncer mes croyances personnelles parce qu'elles n'ont pas d'importance. » C'est des genres de choses qu'on peut trouver chez Jérôme Beau, qui est l'auteur du site web RR0, ou encore Renaud Évrard dans son mémoire sur la psychologie du phénomène de hantise. Bon, je peux encore comprendre ça, mais on ne peut pas croire, on ne peut pas défendre sérieusement, enfin je ne crois pas un seul instant que ces auteurs qui prétendent adopter cette position méthodologique n'aient pas réellement dans le fond une opinion. Donc ici, je demandais quelle est votre opinion, quoi. Je ne veux pas savoir quelle est votre méthodologie, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez. Vous devez bien avoir une opinion. Donc oui ou non, quoi. Oui, donc au départ, il a essayé d'ignorer mes commentaires, et puis après un certain nombre, il a fini par me dire, je cite Pierre Lagrange, donc dans un commentaire qu'il a publié sur son blog, « Quant à mes convictions personnelles sur les ovnis, je suis régulièrement pris à partie par les différents acteurs du débat ufologique qui sont persuadés que je pense ceci ou cela. Ils en savent visiblement plus que moi, mais ma réponse demeure inchangée. Je l'ai souvent dit, je n'ai pas de convictions personnelles. » Fin de citation. Nous avons donc ici un intellectuel détenteur d'un doctorat consacré à la sociologie du phénomène ovni, qui lit la littérature ufologique depuis un bon paquet d'années, donc son premier ouvrage, La rumeur de Roswell, date de 1996, et qui cependant nous dit qu'il n'a absolument aucune conviction personnelle concernant la légitimité ou l'absence de légitimité de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI. Il ne penche même pas un peu dans une direction, il n'a pas non plus d'opinion provisoire, ou comme on dit en anglais, d'educated guess. Non, lorsqu'on lui pose la question de savoir ce qu'il pense du modèle sociopsychologique par comparaison avec les hypothèses extraordinaires, il semblerait que son cerveau soit absolument vide de tout contenu. Cela n'empêche pas évidemment de développer une rhétorique anti-sceptique, anti-rationaliste et même anti-raison tout au long de ses écrits. Concernant cette question de la prise de position, moi par exemple j'ai fait mon diplôme d'études approfondies dans un département de psychologie de la religion, et donc nous avons là un certain nombre de professeurs qui font des recherches pour étudier la religiosité. Dans les profs, il y avait un catholique, un prêtre, il y avait un prêtre anglican, j'avais un autre prof qui était qui avait fait la théologie orthodoxe, donc en Grèce. Et puis, enfin, lui, il était par exemple plutôt, après avoir fini la théologie, il était plutôt athée. Je crois qu'on ne croit pas un seul instant que ces profs n'ont pas de convictions personnelles. Qu'après, évidemment, ils tentent d'être le plus objectif possible, évidemment, je veux dire, il faut bien se rendre compte qu'ils ont quand même des convictions personnelles, et ils ne les cachent pas, je veux dire. Si on leur pose la question, ils vont dire, bah oui, je suis un prêtre catholique, ou je suis un prêtre orthodoxe, j'ai ma foi. Les convictions des individus en science affectent les résultats, mais le fait est que la science est un processus de groupe. Donc on travaille en communauté, et c'est par les différents chercheurs dans le monde, on nivelle les différences. Ça, c'est une chose importante. L'objectivité dans un individu, elle n'existe pas. On a tous des convictions, on a tous un cadre de référence. La différence, c'est est-ce qu'on choisit de l'expliciter ou pas. Et donc Pierre Lagrange, ici, refuse de l'expliciter, au point qu'il prétend qu'il n'a même pas d'opinion personnelle. Moi, je défends l'idée que, évidemment, on a tous une opinion personnelle et que l'attitude adéquate, scientifique, c'est d'expliciter à ses auditeurs, aux gens qui nous lisent, quelle est la position qu'on défend. Bon, en psychologie expérimentale, du côté des expériences, de l'expérimental, les convictions des chercheurs ont moins d'importance parce que le cadre expérimental limite l'effet des convictions du chercheur. Mais on sait que, par exemple, il y a un effet expérimentateur, donc psychologique. J'appelle ça psychologique pour le distinguer de l'effet expérimentateur parapsychologique, mais cet effet expérimentateur psychologique montre que, bah, en fonction de les convictions des chercheurs, influencent même les résultats des recherches expérimentales. Évidemment, ça n'a rien de paranormal, c'est juste dans la manière d'analyser les données, dans la manière de réaliser les expériences, etc. Donc Renaud Evrard, dans son mémoire, il fait un mémoire sur le phénomène de hantise. C'est un membre du GMI, donc il adhère au paranormal. Et il nous dit aussi, oui, il ne faut pas me poser la question de ma croyance personnelle sur les fantômes, ça n'a pas d'impact sur mon travail. Je veux dire, c'est une question non pertinente, c'est ce qu'il nous dit au début de son mémoire, pour ceux qui l'ont lu. Mais c'est la même chose, je veux dire, comment peut-on sérieusement défendre que le fait que lui croit ou non dans une certaine objectivité des fantômes, ou pas, bon, donc il étudie la souffrance psychologique des gens qui ont vécu des phénomènes de hantise dans une optique psychanalytique. Mais, je veux dire, s'il pense que c'est purement subjectif, donc un peu dans une optique sceptique, comme John Hickel, il va dire... Il n'y a pas de maison hantée, il n'y a que des personnes hantées, par exemple. C'est très différent de s'il pense qu'il y a des phénomènes authentiquement paranormaux qui se produisent dans les phénomènes de hantise. Qu'il attribue ça ou à un esprit ou à de la macropsychokinèse, c'est une autre question. Mais je pense que l'attitude, ce n'est pas de prétendre que la question n'a pas d'importance ou... Lui, il prétend que cette question, de la part quand moi je pense ce genre de question, il dit que c'est en fait dû à une résistance de mon inconscient vis-à-vis du paranormal, hein, vous savez. Non, je pense que la bonne attitude consiste au contraire à affirmer clairement ses positions, s'il y croit ou s'il y croit pas. J'ai beaucoup de respect pour quelqu'un comme Auguste Mason, bon, pour le fait qu'au moins il est clair, il écrit noir sur blanc, il est persuadé qu'il y a de l'extraterrestre à l'origine du phénomène OVNI. Il ne cache pas ou il ne louvoie pas derrière ses positions. Et en plus, évidemment, je fais un petit détour là par Renaud Evrard, mais ce que je trouvais particulièrement étonnant, c'est qu'en parapsychologie, non seulement il y a l'effet expérimentateur psychologique, mais il y a l'effet expérimentateur parapsychologique où les parapsychologues prétendent que les croyances liées au psy, donc perception extrasensorielle et psychokinèse, que le psy va se manifester ou non dans une expérience, cela dépend aussi des croyances, non seulement du sujet, mais de l'expérimentateur, voire même de la personne qui encode les résultats dans l'ordinateur, voire même, Dean Radin allait jusqu'à l'éditeur, voire même au-delà, hein, les pensées de tout le monde finalement pourraient intervenir dans les résultats d'une expérience. Donc c'est un peu marrant, je crois qu'au contraire, je crois qu'il est clair donc, que les convictions personnelles des chercheurs doivent être prises en compte et doivent être explicitées le plus clairement possible, et ce dès le départ. Pour donner un autre exemple, Jeanne Favre-Saada, donc, qui est une sociologue qui a travaillé sur la sorcellerie dans le bocage normand, elle a écrit un ouvrage classique sur le sujet qui s'intitule « Les mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le bocage » qui a été publié en 1977. Non seulement elle cite ses convictions, mais elle explique comment elle devient prise dans le système de sorcellerie. Elle arrive en étant sceptique, en ne croyant pas dans la sorcellerie, mais au fur et à mesure du temps où elle pratique l'observation participant, elle documente sa propre transformation interne, comment elle devient engagée elle-même dans les processus de la sorcellerie. Et c'est beaucoup plus intéressant que de prétendre qu'on n'a pas d'opinion ou que notre opinion n'a pas d'importance et n'influence pas notre façon d'approcher les choses. Mais en fait, maintenant, donc après ces quelques conversations que j'ai eues assez houleuses avec Pierre Lagrange sur son blog, je suis de moins en moins convaincu qu'il est un tenant de l'hypothèse extraterrestre. Par contre, ce qui compte vraiment pour lui, c'est qu'il faut, selon lui, être contre ce qu'il surnomme le grand partage. Alors le grand partage, c'est celui qui existe, selon lui, entre science et pseudo-science, entre rationnel et irrationnel. Et il faut, selon lui, abandonner ces distinctions. Donc en gros, c'est un peu dire le concept de pseudo-science n'est pas pertinent. Dire la l'ufologie est une pseudo-science, c'est pas pertinent. Ou dire il y a des raisonnements rationnels, enfin il y a de la raison et de l'irrationnel, c'est pas des concepts pertinents. Selon lui, il faut complètement laisser tomber tout ça. Pourquoi ? Ben parce qu'il s'agit de la base de sa méthode irréductionniste. Ça, en gros, il y a un raisonnement circulaire chez lui. Hein. Il faut le faire parce qu'il faut le faire, en fait. Hein. Il faut se refuser de trancher entre l'approche sceptique du phénomène OVNI et l'hypothèse extraterrestre, tout comme on se refuserait de trancher entre astronomie et astrologie, médecine basée sur la science et médecine prétendument alternative, théorie de l'évolution et créationnisme, thérapie cognitive, cognitivo-comportementale et psychanalyse, etc. Tout est nivelé par le bas, tout est au même niveau, c'est tout des modes. Donc c'est, tout ça, c'est la sociologie des sciences dans la lignée de Bruno Latour, c'est tout ce qui est le mouvement postmoderne. Ça a été largement critiqué par Sokal et Bricmon. J'ai d'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai interviewé Jean Bricmon dans un épisode précédent du balado. Mais donc tout ça, cette approche a été critiquée vivement par Sokal, Alan Sokal et Jean Bricmon dans Imposture intellectuelle. Pour lui, dans ses écrits, il ne semble pas vraiment justifier pourquoi, mais on pourrait se demander, est-ce qu'il considère que le concept de pseudo-science n'est pas valide parce que les épistémologues auraient prétendument échoué à établir cette distinction? Bon, Pierre Lagrange, c'est un sociologue, pas un épistémologue, donc pas un philosophe spécialisé dans la réflexion sur la science. Ce qu'on observe du côté des épistémologues, c'est... Bon, vous savez que donc depuis les travaux de Karl Popper sur la falsificabilité, donc une théorie serait scientifique pour autant qu'on pourrait, en tout cas en principe, la réfuter. Donc par exemple, la psychanalyse est irréfutable parce que toute information... Toute donnée peut être interprétée, incorporée par le modèle psychanalytique et rien n'est capable de le réfuter. Popper dira, bon ben, à cause de ça, la psychanalyse n'est pas scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que pour Popper, ça ne veut pas dire que la psychanalyse n'est pas, le modèle psychanalytique n'est pas vrai. Simplement, on ne peut pas le tester, donc il ne relève pas de la science. L'idée de Karl Popper a généré énormément de discussions chez les épistémologues, principalement parce que la science est plus complexe que cette idée-là. Cette idée-là est une excellente idée, mais en réalité, quand on observe comment la science se fait, on se rend rapidement compte que les scientifiques tendent à protéger leur théorie ou leur modèle par des hypothèses ad hoc. Donc s'ils enregistrent une donnée qui devrait théoriquement le réfuter, ce qu'on observe, c'est que pendant un certain temps, ils vont le protéger en rajoutant d'autres éléments dans le modèle pour tenter de manière purement théorique, mais pour conserver le modèle malgré tout. Donc la science est plus complexe que ça. On ne peut pas tout réduire à la question de la réfutabilité de Karl Popper. Et donc il y a des discussions très intéressantes du côté des épistémologues. Alors ce qu'on peut dire au final, enfin, sur ce sujet, je renvoie à l'excellent ouvrage de Massimo Pigliucci qui s'appelle Nonsense on Stilts, How to Tell Science from Bunk. En gros, ce qu'il va dire, c'est qu'il y a un large paysage de science, de quasi-science, de pseudo-science et de non-science. Tout ça est très complexe, comment distinguer? Mais c'est pas parce que quelque chose est complexe que tout d'un coup le concept de pseudo-science doit être rejeté tout d'un bloc et tout se vaut, quoi. C'est pas parce qu'il est difficile philosophiquement de déterminer des critères qui permettent de distinguer l'astrologie de l'astronomie que alors il faut dire, ah ben non, l'astrologie, l'astronomie, ça se vaut, c'est au même niveau, c'est juste deux modes de discours différents. C'est un saut qu'il ne faut pas faire. Donc c'est le saut pourtant que Pierre Lagrange veut qu'on fasse pour comme base à son approche irréductionniste. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse tout ça dans un billet qu'il a écrit donc sur son blog, qui s'intitule « Réalité, construction sociale, quelques précisions », il nous dit « La révolution formidable introduite selon moi par ses études tient dans cette façon tout à fait originale de recomposer le social, de le transformer en collectif, de ne plus faire de distinction entre ce qui est humain, ce qui est non-humain, ce qui est technique et scientifique. La science ne décrit pas la réalité extérieure. Le cosmos lointain, la nature extérieure à notre société, elle produit des êtres qui vont recomposer et redéfinir la société, le collectif. » Fin de citation. Et dire que tout ce temps, je pensais que l'objectif de Pierre Lagrange était de mieux comprendre le phénomène OVNI. Non, non, loin de là. Son objectif via l'étude sociologique irréductionniste du phénomène OVNI est de recomposer le social, transformer le social en collectif, ne plus faire la distinction entre ce qui est humain et non humain, ne plus faire la distinction entre technique et scientifique. Rien que ça. Je pense personnellement que si on veut produire un changement sociétal, il est bien plus pertinent de faire de la philosophie politique, de devenir un militant ou encore de travailler pour une ONG que de faire de la sociologie du phénomène OVNI, qu'elle fût irréductionniste ou non. En ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est l'étude du phénomène OVNI. Et donc, je veux dire, pour ceux qui ont pour objectif de recomposer le social via la sociologie réductionniste en rejetant le grand partage entre rationnel et irrationnel, vous savez qu'il existe maintenant pour vous le blog de Pierre Lagrange, chacun son truc. Oui, pour terminer cette petite discussion de l'approche réductionniste, je voudrais juste signaler que, parce qu'évidemment, Pierre Lagrange a tendance à prétendre que son approche est l'approche sociologique en général, mais évidemment, il y a eu d'autres sociologues qui, par le passé, se sont intéressés au phénomène OVNI. Celui que je vous recommande vivement est Jean-Bruno Renard. Actuellement, il travaille surtout sur les questions de rumeurs, mais il a écrit, par exemple, un excellent ouvrage. Bon, il a fait toute une série de publications, voilà, d'articles scientifiques, mais son nouveau ouvrage de 1988, qui s'intitule « Les extraterrestres, une nouvelle croyance religieuse », point d'interrogation, est excellent et je vous le conseille vivement. Donc, on peut très bien faire de la sociologie du phénomène OVNI sans partir dans l'irréductionnisme lagrangien, dans des positions postmodernes relativistes, hein. Et aussi, une autre référence que je voulais vous donner pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la réflexion, Alan Sokal donc, a écrit un petit ouvrage, enfin, qui est un article. On l'a aussi évoqué dans ma discussion avec Jean Bricmont, mais je voudrais le rementionner ici. Il s'intitule « Pseudosciences et postmodernisme, adversaire ou compagnon de route ». Et voilà, je veux dire, c'est vraiment dans cet article, donc dans ce livre, Alan Sokal discute du fait que souvent les philosophes et les intellectuels de tendance postmoderne, par leur discours relativiste, tendent à faire le lit des pseudosciences. Parce que comme disait un de mes professeurs à la fac, le problème quand il n'y a plus de vérité, c'est pas qu'il n'y a plus de vérité, mais c'est qu'il n'y a plus de fausseté. C'est-à-dire que si tout est au même niveau, on ne peut plus rien critiquer. Il n'y a plus de faux. On ne peut pas dire l'astrologie, c'est de la foutaise, si on abolit ces notions-là. Que les auteurs postmodernes le veuillent ou non, par leur discours, ils font le lit des pseudosciences. Et ici, finalement, donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas trop si Pierre Lagrange, évidemment, sa pensée a évolué au cours du temps, mais est-ce qu'il est un tenant des hypothèses extraterrestres pour expliquer le phénomène OVNI? Je n'en sais rien. Bon, il dit qu'il n'a pas d'opinion personnelle. Je crois pas vraiment qu'on puisse ne pas avoir d'opinion, hein. Je veux dire, même être agnostique, hein, enfin, je veux dire, c'est toujours une opinion, hein, mais ne pas avoir d'opinion, ça me semble assez surréaliste. Je pense que le fait qu'il développe une telle rhétorique anti-sceptique, anti-rationaliste est relativement clair. Je dirais qu'il est peut-être pas pro-hypothèse extraterrestre ou pro-hypothèse extraordinaire, mais en tout cas, il est anti-hypothèse prosaïque. Et donc, à travers ses écrits, à travers son approche irréductionniste, il tente de enfin, qu'il le veuille ou non, je pense qu'il le veut, c'est un de ses objectifs, mais il essaye de légitimer l'ufologie en tant que discipline scientifique. Donc, ici, on est clairement, si on pose la question. Donc, adversaire ou compagnon de route, il n'est clairement pas un adversaire de l'ufologie, il est clairement un compagnon de route, comme l'avait souligné Claude Mauger dans son article, hein. Science et sociologie des sciences parti pris, ben, il est clairement, selon moi, selon d'autres, du côté du parti pris.
En statistique, on dit que deux variables, c'est-à-dire deux grandeurs que l'on peut mesurer et qui sont susceptibles de prendre différentes valeurs, numériques ou non, sont corrélées si les valeurs prises par l'une d'entre elles varient en fonction des valeurs prises par l'autre. On dit que cette corrélation, c'est-à-dire ce lien de fait, est positive si les grandes valeurs d'une variable sont plutôt associées aux grandes valeurs de l'autre, comme dans le cas de la taille et du poids, car les personnes les plus grandes sont globalement plus lourdes que les personnes plus petites. On dit que la corrélation est au contraire négative si les grandes valeurs de l'une des variables sont associées à de plus faibles valeurs de l'autre, comme c'est le cas pour la consommation de tabac et la longévité. Des chercheurs ont remarqué que les personnes qui mangent beaucoup de poissons crus vivent en moyenne plus vieux que les autres. Il y a donc une corrélation positive entre la consommation de poissons crus et la durée de vie. Nous avons tous tendance à interpréter une telle corrélation spontanément comme une causalité et à penser en l'occurrence que la consommation de poissons crus est donc bonne pour la santé. Autrement dit, est la cause de la longévité. Cette interprétation des corrélations comme des causalités n'est malheureusement pas toujours justifiée et mène à des erreurs logiques, car il arrive qu'une corrélation ne corresponde pas à une causalité, en particulier quand une troisième variable s'en mêle, variable que l'on appelle alors variable de confusion. Dans notre cas, comme les Japonais consomment plus de poissons crus que les Européens et vivent plus longtemps, la variable pays pourrait, par exemple, expliquer la corrélation. Pensez-vous que le fait d'avoir de grands pieds aide à bien réussir en orthographe ? Sûrement pas. C'est pourtant ce que suggèrent les résultats d'une expérience très facile à mener. Dans une école primaire, tous les élèves ont passé un test d'orthographe. Il s'agissait d'une courte dictée, la même pour tous. On note pour chaque élève le nombre de fautes d'orthographe et la taille des pieds, c'est-à-dire la pointure. Les résultats sont étonnants. Comme on le voit sur ce graphique qui porte en abscisse la taille des pieds et en ordonnée le nombre de fautes d'orthographe, plus les pieds sont grands, moins on fait de fautes d'orthographe. Ce résultat est incompréhensible si l'on confond corrélation et causalité, car s'il y a bien corrélation entre la taille des pieds et le niveau en orthographe, ce lien de fait n'est en rien une relation de cause à effet. Tout s'éclaire lorsqu'on prend en compte le niveau des élèves. Les élèves de CP ont les plus petits pieds et font également plus de fautes d'orthographe que les autres. Les CM2 ont au contraire à la fois le meilleur niveau en orthographe et les plus grands pieds. Le lien entre les variables s'explique donc entièrement par une variable de confusion, qui est le niveau ou l'âge des différents élèves. On peut représenter la situation par un diagramme où les flèches ondulées représentent des corrélations et les autres flèches des causalités. Cet exemple montre qu'il peut y avoir une corrélation entre deux variables sans aucune relation de cause à effet directe entre elles, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais il y a encore pire que cela, comme nous allons le voir sur un autre exemple réel. Voici un diagramme qui représente pour différents pays l'espérance de vie, en ordonnée, en fonction de la consommation d'alcool moyenne par adulte. La tendance qui ressort de ce graphique est claire. Lorsque la consommation d'alcool augmente, l'espérance de vie augmente également. Faut-il donc se saouler pour vivre plus longtemps ? Pas si sûr. Là encore, tout s'éclaire lorsqu'on prend en compte la bonne variable, qui est la richesse du pays. Dans les pays pauvres, comme le Nigeria ou le Mali, on boit très peu et l'espérance de vie est particulièrement faible. Dans les pays les plus riches, comme les États-Unis ou l'Allemagne, on boit beaucoup et on vit longtemps. Bien entendu, si les Allemands vivent plus longtemps, ce n'est pas grâce à l'alcool, mais grâce à un système de santé efficace et d'autres facteurs du même acabit liés à la richesse du pays ou à sa situation. C'est donc malgré la consommation d'alcool et non grâce à elle que les habitants des pays riches sont favorisés en termes de longévité. Il y a bien une causalité entre la consommation d'alcool et l'espérance de vie, mais celle-ci va en sens inverse de la corrélation observée. Lorsque deux variables sont corrélées, il arrive que ça soit dû à une relation de cause à effet directe entre les deux, comme entre la consommation de tabac et le cancer du poumon, par exemple. Mais il arrive aussi que la corrélation soit due à une variable de confusion, qui peut faire apparaître une corrélation là où il n'y a aucune causalité. Et même parfois, faire apparaître une corrélation qui va en sens inverse d'une causalité réelle. L'interprétation des corrélations comme des causalités est presque immédiate chez nous et nous n'y pensons même pas. Il nous faut faire un véritable effort pour imaginer que si les personnes qui boivent plus d'huile d'olive sont en meilleure santé, cela ne prouve pas que l'huile d'olive est bonne pour la santé. Ou bien que si les motards ont plus d'accidents que les automobilistes, ce seul constat ne prouve pas que la moto est plus dangereuse que la voiture. Ou encore, que si les personnes qui se couchent tard ont un QI plus élevé que la moyenne, cela ne prouve pas que les veillées tardives rendent futées. Mais cet effort en vaut la peine s'il permet d'échapper à quelques comportements ou croyances irrationnelles.
C'était Scepticisme scientifique. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement au revoir. 2 8 2 3 0 6 2 8 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4